Bonsoir, merci de votre présence. La Bibliothèque publique d'information est ravie donc de vous accueillir pour le grand entretien de Claude Guibal avec Ziad Mahalouf. Donc Claude Guibal, grand reporter radio à France Inter, et Ziad Mahalouf, journaliste radio et producteur de l'Atelier des médias sur RFI, qui vont s'entretenir sur la carrière, le parcours de Claude Guibal et également les enjeux du métier de reporter aujourd'hui. Cette date s'inscrit dans le cycle Reportage état des lieux, qui donc se déroule sur toute l'année 2018 et dont la prochaine date sera un Profession reporter, qui est une petite rencontre en salle de lecture entre un reporter et le public, qui aura lieu le 12 avril. Donc vous retrouvez toutes les dates du cycle sur notre site web et également sur notre mensuel Actu Bibliothèque. Et un dernier mot pour vous dire que la soirée étant enregistrée, vous pourrez revoir cette émission si vous le souhaitez. Voilà, on vous souhaite une très très bonne soirée et je laisse la parole à Ziad.
Je crois même qu'elle est filmée la soirée et vous êtes face à deux personnes qui travaillent à la radio, donc qui ont l'habitude d'être dans des studios enfermés, cachés, de ne pas montrer leur visage. Donc on va faire un effort pour vous. Malheureusement, on vous voit mal parce qu'on a un vrai contre-jour, mais voilà, nous sommes ravis d'être là. Reportage état des lieux, je me suis interrogé un petit peu sur ce que ça pouvait vouloir dire. J'imagine qu'à l'origine, il y a un questionnement sur l'évolution du journalisme, sur la place du terrain dans le travail des médias et peut-être en filigrane sur la tendance à traiter de plus en plus de choses de loin. C'est ce qu'on appelle le desk dans notre jargon, c'est-à-dire le bureau. Je ne sais pas si c'est normal, on a un petit retour, nous en tout cas, qui grésille. Je ne suis pas sûr que ce soit normal, je ne sais pas si vous l'entendez aussi, vous ? Non, c'est juste nous, donc c'est peut-être nos retours qui... Voilà, là c'est parfait. Merci. Y a également le mot reportage qui est un terme imprécis, qui prend toutes sortes de formes et particulièrement à la radio. Peut-être qu'on va en parler, peut-être qu'on va décortiquer un peu. Et il y a même, j'y pensais, un vocabulaire en radio qui prête un peu à confusion. Par exemple, on parle d'envoyé spécial permanent. J'ai toujours trouvé cette expression étrange parce que dans l'idée d'envoyé spécial, il y a quelque chose de... On a l'impression que c'est quelqu'un qui a été envoyé pour l'occasion. Et en fait, l'envoyé spécial permanent, c'est en général la personne qui reste 4 ans, 5 ans à tenir un bureau. Il y a aussi la notion de correspondant. Je ne sais pas si... On reviendra peut-être sur ça. Et puis, il y a un contexte de critique du journalisme au sens large qui pose question également. Une critique elle-même que... je trouve à mes yeux assez flou et qui est, encore une fois, c'est totalement subjectif puisque je suis journaliste moi-même, pour moi plus le signe d'une méconnaissance des réalités multiples de ce métier qu'une analyse véritablement profonde et valable. Mais je suis sûr que j'aurai beaucoup de contradicteurs dans la salle. L'occasion de vous dire que donc avec Claude, on va échanger pendant... une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes autour de son parcours, autour de son travail. Et puis ensuite, ce sera à vous, si vous le souhaitez, de poser des questions ou d'apporter des contributions, des regards, si vous le souhaitez. L'idée étant d'être concis, c'est-à-dire que si c'est une contribution, un regard, je risque de vous couper ou de vous demander d'être... de raccourcir ou d'abréger au bout d'une minute, une minute trente. Et si c'est une question, même principe, l'idée est qu'on puisse échanger le plus longuement possible et de ne pas monopoliser la parole. J'espère que ça vous convient. Je te dis bonjour. On s'est vu avant. Tu es Claude Guibal, tu es journaliste. Je te tutoie parce qu'on se connaît un petit peu. On ne se connaît pas beaucoup, mais on s'est croisés une fois. On en a profité pour parler de nos enfants respectifs. Hein. On n'a pas parlé du métier. Tu travailles aujourd'hui, Claude, à France Inter. Avant, tu étais à France Culture. Et avant, et ça, c'est... probablement le signe particulier de ton parcours, tu as été 15 ans correspondante en Égypte, depuis l'Égypte. On va parler donc de 1997 à 2012, je ne me trompe pas.
C'est ça.
Ce sont des années importantes, surtout les dernières en Égypte. On va revenir sur ça, mais avant ça, j'imagine, pour te connaître, ce serait intéressant de savoir... qui est Claude Guibal, et peut-être en se mettant comme date limite, et tu reviens où tu veux, enfin aussi loin que tu veux, 1996, c'est quand tu obtiens ton diplôme à l'École supérieure de journalisme de Lille, qui est, rappelons-le, une des plus prestigieuses, si ce n'est la plus prestigieuse des écoles de journalisme en France.
Tout d'abord, merci à vous d'être venu ce soir. Qui est Claude Guibal, si je le savais, ce serait pas mal. L'école de journalisme, ouais, j'ai été diplômée en 96, effectivement, je crois, mais je sais que quand j'y suis arrivée 2 ans plus tôt, la première sensation très très forte, c'était de me dire, waouh, pour la première fois, je suis à l'endroit où je dois être. En fait,
ça veut dire quoi ça?
C'est
je
que le journalisme et le reportage en fait étaient souvent il arrive qu'on demande à quel âge machin. Bah oui, moi je crois que c'était je sais pas 8 ans, 9 ans. J'ai une prof d'histoire qui a gardé en fait, je l'ai eu, je crois cette prof en seconde. Elle a gardé les petites fiches qu'on remplissait. Et moi, j'avais marqué. Je me souvenais même pas que j'avais marqué ça parce que timide comme je suis, j'ai du mal à imaginer que j'ai pu le faire. Mais bon, elle me l'a montré. Donc, qu'est-ce que je voulais faire comme métier plus tard? J'ai écrit journaliste et entre parenthèses, et je ferai tout pour y arriver. Donc c'était très déterminé. Non, c'est un métier que je rêvais de faire sans savoir exactement ce qu'il recoupait en fait. Et il y avait l'idée d'aller vers les gens, de raconter le monde, mais étant une timide pathologique, je ne voyais pas comment je pouvais y arriver. Et l'école de journalisme de Lille, comme tu dis, elle est effectivement assez prestigieuse et on disait que bah, pour y rentrer, c'était extrêmement compliqué, c'était extrêmement difficile et puis j'y suis rentrée. Mais mon contact avec le journalisme, en fait, avait commencé avant même l'école parce que j'étais partie, je commençais d'abord à faire de la radio associative quand j'avais 16 ans à peu près. Et puis je suis partie en stage au Guatemala, à Reuters. J'avais 18 ans, je crois, pendant la guerre civile. Je suis restée plusieurs mois là-bas. Voilà.
Et du coup, c'était quoi le déclic? Tu te souviens? Ou c'était vraiment un truc qui est arrivé dans ton enfance et tu as été fidèle à cette envie, cette idée?
Il n'y a pas eu un déclic précis, mais il y a des films, effectivement. Je ne sais pas si tu te souviens de The Killing Fields, qui est la déchirure en français. Il y avait forcément cette idée d'aller raconter le monde en marche et de voyager. Ça, c'était très, très lié. J'ai eu la chance, quand j'étais ado, quand j'étais en première, quand j'avais 16 ans, de pouvoir partir pas mal dans les pays de l'Est et notamment en Pologne, où j'ai beaucoup été avant la chute du mur et après. Et c'est des moments que j'ai accompagnés avec mes copains de l'époque. Tu as 16 ans, c'est le moment où on est très en prise avec un monde qui bouge et moi j'ai eu la chance de vivre ça sur place, de vivre cette révolution en fait de la chute du rideau de fer, etc. Et d'avoir le sentiment voilà de pouvoir être sur place, de le vivre au milieu des gens, c'était énorme en fait, c'était énorme. Et faire du journalisme aujourd'hui, du reportage, ça me permet aussi quelque part de voilà d'être un petit caillou sur le côté d'une route de l'histoire, quoi. Et j'adore ce sentiment-là, plus que de le rapporter, c'est de pouvoir y assister, d'ouvrir tout grand les yeux, les oreilles et de me dire wow, c'est dingue.
Je l'ai évoqué en te présentant, mais en 1997, donc tout jeune diplômé, tu décides de partir en Égypte. Mmh. Alors peut-être que pour les oreilles profanes, c'est un choix traditionnel, normal, où tu as été envoyé là-bas. En fait, j'imagine que vu de l'intérieur, c'est un choix, c'est plutôt un pari. Un choix très compliqué. Peut-être que tu peux nous expliquer.
Non, même pas. C'est un hasard de vie. J'ai suivi quelqu'un qui était en Égypte, qui est mon mari aujourd'hui, et qui partait travailler en Égypte. Je suis partie avec un sac à dos pour 2 semaines, en fait 2 semaines, 3 semaines, je me disais on verra bien, et en même temps je me disais on verra qu'on va y rester et que l'idée c'était d'aller faire du reportage là-bas, mais c'était compliqué, c'était un peu avant l'époque d'internet aussi, au tout début, donc tout était extrêmement compliqué, pas de ligne de téléphone internationale, donc pour proposer des sujets aux rédactions à Paris, il fallait aller aux centrales téléphoniques du Caire, payer 10 € la minute de téléphone pour dire bonjour, je m'appelle Claudie Ball, je suis journaliste indépendante, ok, bancaire. Alors, je voudrais vous proposer un sujet sur, bam, ça faisait déjà 10 euros. Et puis, il y avait quelqu'un qui disait, oui, oui, envoyez-nous un fax. Et moi, je me disais, oh merde, un fax, et vraiment, 10 euros pour une pige à 30 euros ou 40 euros. Ça a été un peu des pattes pendant plusieurs années, quoi. Et en même temps, c'était génial. Et c'est ce que je dis souvent aux étudiants journalistes ou aux jeunes journalistes qui viennent me voir et qui me disent, oh, j'aimerais bien partir comme vous, faire du reportage, etc. Mais est-ce qu'on en vit ? Et je dis, bah non, enfin, on n'en vit pas, faut pas faire ça pour. Il faut pas imaginer que tout de suite on va gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas ce qui vous fait manger, c'est ce qui vous fait vivre, quoi. C'est vraiment ça. Ces années difficiles, oui, j'ai peut-être pas gagné beaucoup d'argent, mais waouh, ça vous fait vivre.
Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, tu résumes vraiment, mais tu es quand même restée 15 ans là-bas. Oui. Tu as été correspondante pour Libération à partir de l'an 2000, pour Radio France à partir de 2003. Qu'est-ce que c'était ? Est-ce que pour toi, ça fait partie de ton expérience de reportage ou non, ça c'est plutôt une expérience de correspondante. Comment ça s'est passé concrètement ?
Moi j'ai l'impression que mon expérience de correspondante, enfin qui est quand même l'essentiel de ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui, ça a été ma construction de journaliste. Alors elle s'est faite un petit peu de façon atypique, dans le sens où j'avais très très peu de retours sur ce qui se passait en France, en Égypte à cette époque, comme je disais, Internet était assez peu, ça se développait, mais le débit était très bas. Le Caire aussi est une ville un petit peu particulière en termes de réception radio, parce que même RFI, on entend très bien à Alexandrie tout ça, mais au Caire c'est un peu compliqué, on est un peu dans un trou noir. Donc en fait j'ai vécu quasiment 15 ans sans écouter la radio française et quasiment sans lire la presse française où je la lisais, mais voilà, et puis encore moins en regardant la télévision. Donc je rentrais en France une fois par an à peu près, où j'allais faire un petit tour dans les rédactions, mais étant provinciale je passais assez peu de temps à Paris. Donc c'est un peu 15 ans de construction, j'allais dire hors du milieu journalistique aussi, donc c'est un pas à l'aveugle, mais un peu quand même.
Et puis
donc,
de solitude professionnelle aussi,
pas de,
j'imagine
pas vraiment de solitude professionnelle, parce que je partageais ma vie avec un journaliste, donc c'était quand même mes premières oreilles, mon premier lecteur. Donc en même temps, c'est un ping-pong permanent. Mais c'est pas l'effet d'une rédaction, évidemment, ce que je découvre simplement que depuis quelques années.
Alors, tu es venu avec plusieurs éléments que tu souhaitais partager avec le public. On va peut-être entrer dans le vif du sujet. Je propose de nous mettre dans l'ambiance avec une vidéo qui est très courte. Je sais pas, donc c'est le premier élément. On va la voir, on va la regarder. Donc,
ah oui.
Donc là, tu es sur un balcon, c'est ça ?
Ouais.
En Égypte.
C'est un balcon en Égypte au-dessus de la place Tahrir pendant une manif. C'est une vidéo qui a été faite par Sébastien Legénie, qui est à France Inter. Et elle est rigolote, elle est assez courte, mais elle montre parfois, quand on vous fait un direct, c'est même très souvent ça, on est assis par terre. Là encore, c'est confortable. Il n'y a pas grand monde à côté, à part ce monsieur barbu qui regarde ce qui se passe. Je pense que elle est très prophétique aussi, cette vidéo, cette image.
Et tu as aussi apporté je ne sais pas si c'est le même direct que tu as apporté, on peut l'écouter.
C'est peut-être en direct de ce jour-là, oui, peut-être.
En gros, quand on t'entend en direct dans le journal raconter ce qui se passe, le contexte pour toi, c'est à peu près ça.
Le contexte, ça peut être ça, oui.
Une demi-heure à peu près, et des barricades sont toujours dressées aux entrées de la place. Et en fait, parmi les protestataires, parmi les milliers de personnes qui sont là en ce moment, eh bien, on reconnaît des figures de la jeunesse révolutionnaire, des gens qui étaient là dès le 25 janvier, date du début de la révolution égyptienne. L'un d'entre eux, Malek X, a d'ailleurs été blessé tout à l'heure, il a perdu un œil. Il y a là aussi beaucoup de jeunes des quartiers populaires qui sont venus défier la police qui est au premier rang, et la police militaire, elle, elle est à l'arrière et pour l'instant, elle n'intervient pas. Et puis, sur Tahrir, ce qui est important, c'est que depuis une heure, ce qu'on voit arriver, ce sont des islamistes, principalement des salafistes, ces tenants d'un islam radical. Ce sont eux qui ont été parmi les premiers à manifester hier contre l'armée. Ici, on sent que la tension est forte. On s'attend à une nouvelle offensive ce soir. D'ailleurs, un nombre très impressionnant d'ambulanciers a été déployé aux alentours de la place. On a le sentiment d'un bras de fer qui se met en place avec l'armée. Cette armée que tout le monde sur la place appelle à quitter le pouvoir. 60 ans de régime militaire, vous avez vu où cela nous a mené, disaient tout à l'heure les manifestants, qui répètent que tant que l'armée sera aux commandes de l'Égypte, la révolution n'aura pas abouti.
Tu t'écoutes attentivement.
Oui, c'est en plus c'est pas récent en fait. Ça
c'est
date 2011, de 2011, hein, ouais. C'est ça. Je pense que c'est.
C'était ta dernière année en Égypte.
Oui.
C'était un grand changement, j'imagine, dans l'atmosphère du pays que tu avais connu durant les 14 années précédentes.
Ah, c'était incroyable de vivre cette révolution, ces printemps arabes en Égypte. Hein, en plus en le vivant. À hauteur d'Égyptiens, c'est-à-dire que quand quelque chose comme ça se produit dans votre vie, vous le vivez à la fois comme journaliste, mais vous le vivez comme un citoyen, alors je ne vais pas dire citoyenne égyptienne parce que ce n'était pas mon cas, mais quand les bagnoles brûlent, c'est la vôtre qui brûle. Moi, j'habitais très près de la place Tahrir. Un des premiers commissariats à avoir été pris d'assaut et détruit, c'est celui qui était à 40 mètres de chez moi. Ça veut dire que quand vous êtes gazé, c'est votre enfant qui est gazé, qu'il faut mettre à l'abri. Ça veut dire que quand tous les magasins sont fermés, qu'il n'y a pas à bouffer, vous n'avez pas à bouffer. Je me souviens très très bien de le sentiment que j'ai eu au bout de plusieurs jours de révolution. Un soir, on bravait le couvre-feu pour pouvoir sortir après certaines heures. Et donc, comme l'Internet avait été coupé, le téléphone aussi, un jour, pour pouvoir envoyer mes sujets, j'étais allée rejoindre des collègues parisiens qui étaient, eux, dans un grand hôtel près de la place Tahrir. Donc, je me souviens d'être rentrée là et d'être rentrée dans la salle de resto où ils étaient. Et il y avait de la nourriture partout. Mais on n'avait quasiment pas mangé pendant 2 ou 3 jours. C'était dingue. On se rendait bien compte que les conditions de reportage entre un envoyé spécial et puis un correspondant ou un journaliste local sont pas du tout les mêmes. C'est vrai qu'on cette révolution, cette ouais, je pense que avec tous ceux qui étaient à ce moment-là basés au Caire, on l'a vécu effectivement de façon très très différente des envoyés spéciaux. C'est quelque chose à laquelle je pense systématiquement, d'ailleurs, quand je vais suivre un événement.
Ouais. Quand maintenant ouais. Tu es dans la peau de...
Quand je suis aujourd'hui dans la peau de l'envoyé spécial, j'ai bien conscience de la distance qui se crée par le fait qu'on arrive et qu'on repart.
Et pour revenir sur cette correspondance qu'on a entendue, que tu fais au téléphone, maintenant on a des techniques qui permettent de le faire avec une voix plus claire, mais là on entend vraiment le grain du téléphone. Oui. Et je ne sais pas si c'est celle qui correspond au contexte dans lequel on t'a vu dans la vidéo. Est-ce que ça, déjà, ça fait partie pour toi de l'univers du reportage où tu as une nomenclature différente?
Non, c'est très différent parce qu'en fait, effectivement, cette archive audio, elle est faite au téléphone. Donc, ça veut dire qu'elle était faite sur mon téléphone portable. Or, le premier direct radio que j'ai fait avec un technicien et donc avec ce qu'on a vu sur la vidéo, qui est une valise satellite qui est posée sur le sol. Là, ça nous fait un son studio. Enfin, ça ferait vraiment un son comme
on va
comme,
peut-être comme, entendre une correspondance justement voilà, avec ce
type de son qui fait un son extrêmement propre. On a l'impression d'être à côté. Alors que l'autre était par téléphone, juste comme ça. Et donc, quand tu es pigiste, tu n'as pas de matériel, une valise satellite, je ne sais pas comment ça coûte.
Il faut peut-être expliquer, en fait, parce que tu as dit quand tu es pigiste, parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que dans la plupart des cas, les correspondants, que ce soit de Radio France ou de Libération, ou même de Radio France Internationale pour laquelle je travaille, ne sont pas des personnes employées directement par ces entités, mais des pigistes, donc des personnes qu'on paye pour chacune
pour
des,
chacune
choses
des interventions. Oui, on n'est pas des salariés, on n'a pas un salaire fixe, ce qui induit une certaine forme de précarité déjà au niveau du revenu, mais aussi une précarité au niveau du matériel. Alors même si aujourd'hui, le matériel de reportage a énormément changé, est devenu déjà beaucoup plus abordable, financièrement beaucoup plus abordable. Alors, je n'ai pas pris mon sac avec moi, mais dedans, j'ai souvent mon Edirol. L'Edirol, c'est un petit magnéto de reportage qui est à peine un peu gros.
Ça ressemble à un petit rasoir électrique.
Ouais, c'est à peine plus large que ça, avec deux petits micros sur les côtés qui permettent de faire un super son d'ambiance. Notamment, moi, je me balade encore aujourd'hui quasiment tout le temps avec ça. Aujourd'hui, j'ai du matériel radio un peu plus sophistiqué, qui est un Agra, qui est un magnétophone radio assez performant. Mais je ne me sépare pas de l'Edirol non plus pour tout un tas de raisons. Des fois, je double le son avec l'Edirol parce que ça permet d'avoir du son d'ambiance et de concentrer, par exemple, le son d'une interview plus avec l'autre micro. Mais aujourd'hui, on peut travailler de façon extrêmement, extrêmement légère. Donc, pour les pigistes, c'est devenu un peu plus simple en termes de matériel, y compris de montage sur les ordinateurs. Mais voilà, le pigiste, il est dans une économie de la précarité par rapport au reportage, etc., qui est à la fois extrêmement difficile et en même temps, et là je ne vais pas me faire que des amis, et il ne faut surtout pas qu'on m'entende, mais cette précarité me permettait une forme de liberté parce que je demandais pas nécessairement aux rédactions parce que je savais que si je demandais des trucs, on n'allait pas me les payer. Enfin, je pouvais pas dire. Quand je suis partie en reportage au Soudan, par exemple, il y avait les rédacs, elles n'avaient pas forcément. Il fallait que j'aille trouver X médias différents pour pouvoir financer mon voyage. Souvent, je remboursais mes frais après. Des fois, je rentrais juste à peine dans mes frais, mais c'était quelque part, c'était pas grave. Moi, ce qui me plaisait le plus, c'était de pouvoir le faire, quoi. Et si j'avais dû financer tous mes reportages avant, il y en a la moitié que j'aurais pas fait.
Alors, je t'ai posé une question, mais je t'ai coupé et orienté vers autre chose sur ton acception à toi du terme reportage. Mais pour nous plonger dans l'ambiance, tu as apporté des ambiances et tu as mentionné le fait que tu aimais bien prendre des ambiances. Donc, on va écouter successivement et peut-être même mêler d'abord une ambiance que tu as recueillie, trois ambiances égyptiennes.
Ah oui, c'est trois ambiances du même jour, en fait.
D'abord, c'est un slogan, une ambiance slogan. On a une nomenclature pour nous y trouvé dans nos sons. Et donc là, tu as appelé ça ambiance Égypte slogan. Voilà, je sais pas si ça vient. Ouais.
Alors ça c'est vraiment une ambiance qui est faite avec ce petit magnéto, l'Edirol dont je vous parlais.
Ok, une autre ambiance qu'on écoute en même temps, l'ambiance Égypte Tokiwoki. Ok, on entend bien le Tokiwoki. Donc là, ça incarne bien la police.
Donc là, moi, je passe derrière les policiers avec mon magnéto de reportage. Je le garde là dans la main, comme ça. Voilà, tout ça en me disant que tout à l'heure, quand j'écrirai mon sujet, ça va me permettre à un moment que des informations que je ne vais pas donner dans ma voix vont être données par l'ambiance sonore.
Ouais, et là, ambiance Égypte tire. Donc, difficile à enregistrer les tirs, enfin, ou pas d'ailleurs. Ça sature. Donc là, en gros, c'est toi qui as choisi de partager ces ambiances.
Voilà, c'est trois ambiances d'une même journée, en fait. Donc, et après, par exemple, il faut imaginer qu'un sujet radio, en fait, en moyenne, un reportage, par exemple, sur France Inter, quand vous l'écoutez le matin, c'est 1 minute 10, 1 minute 15. Donc, ça va extrêmement vite pour raconter beaucoup de choses. Et ces ambiances, en fait, elles sont là. Elles sont aussi porteuses d'informations, en fait, que les mots qu'on va pouvoir dire, où elles vont venir en appoint d'un mot, comme si elles viennent aider à fixer parfois aussi une information. Tout à l'heure, on entendait par exemple le petit bip du Tokiwoki. Alors, je ne sais plus comment j'ai fait le sujet après, mais je pense que le petit bip du Tokiwoki, je l'ai dû le faire sortir entre deux mots, parce qu'à un moment, ça va venir porter le récit, en fait. C'est un vrai élément de l'écriture du reportage.
Donc, pour que les personnes se figurent, il y a des interventions que tu peux faire en direct, comme ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais il y a aussi des interventions que tu vas préenregistrer et tu vas pouvoir mélanger ta voix, donc tes textes écrits, avec des ambiances, avec d'autres sons, avec des entretiens. Et donc, quand tu recueilles des ambiances comme celle-là, ça va te permettre d'envoyer un produit un peu fini, voilà, avec ta voix et des ambiances qui soulignent.
Nous, on envoie effectivement toute la journée, alors seul ou accompagné d'un technicien.
Quand
j'étais pigiste, j'étais toute seule. Et maintenant, je ne suis pas systématiquement avec un technicien. On l'est toujours sur les zones de guerre pour tout un tas de raisons qu'on pourra peut-être développer tout à l'heure.
Ce qui fait plaisir aux techniciens qui se sentent un peu garde du corps.
C'est un vrai travail à deux. Et d'ailleurs, au départ, moi, j'étais un petit peu intimidée de travailler avec un technicien parce que ça m'inhibait beaucoup, puisque j'avais un peu appris à faire de la radio toute seule. Donc, on se dit toujours, oh là là, je ne sais pas faire, etc. Mais au contraire, d'abord, on apprend énormément. Non seulement c'est nos premières oreilles, mais c'est plus que ça. Enfin, moi, le technicien, il fait le reportage autant que moi, y compris dans la construction, y compris dans les questions. Hein. Moi, le technicien, je le dis, quand c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas l'habitude de travailler, je lui dis avant, quand tu as une question à poser, tu la poses. Moi, ça me gêne absolument pas, parce que il y a des choses qui sont des évidences pour moi, mais qui ne le sont pas nécessairement pour les autres. Et c'est pas rare hein, que ce soit la réponse liée à la question du technicien que je garde à la fin. C'est deux sensibilités qui se font, et aussi en reportage qu'on fait à deux. On ne le fait pas pareil que tout seul. Hein. Un reportage, ça implique d'aller près des gens, de créer un lien de confiance, de les créer. Là-dessus, si on arrive avec un technicien qui est juste là, qui tend sa perche, ça peut être extrêmement intrusif. Le technicien, ce n'est pas juste un arbre, ce n'est pas juste un matériel, c'est une personne qui participe au reportage. Donc, pour moi, c'est très important. Mais donc, tout ça pour dire que quand ce soit quand on part seul ou quand on part avec un technicien, on fait des sons comme ça toute la journée. Moi, j'ai un peu tendance à faire beaucoup de sons, donc à ramener beaucoup de rush. Comme je suis pas très bonne en interview, mais quand je fais une interview, ça dure, c'est pas rare du tout que mes interviews fassent 30-40 minutes.
Pour un résultat qui va faire une minute quinze
et où il y aura plusieurs personnes interviewées.
C'est pas que t'es pas bonne, c'est que tu manques de concision peut-être dans l'entretien.
Je peux laisser des gros blancs dans une interview, laisser quelqu'un venir à sa réponse d'emblée. J'aime pas imposer. Je suis pas très intrusive en fait en reportage, parce que je trouve ça assez violent en fait déjà.
Et quand tu dis je suis pas très bonne, ça veut dire quoi en fait du coup?
On va faire un peu du name dropping, mais j'en discutais une fois avec Léa Salamé qui travaille à France Inter. Et donc Léa Salamé, elle a son interview du matin, et un jour on est amené à en parler comme ça devant quelqu'un, et puis je dis, moi je pourrais jamais faire ce que Léa fait. Alors elle me regarde, elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? Parce que l'interview du matin en 5 minutes, elle est extrêmement, c'est un match de boxe, il faut aller très très vite, il faut que la première question soit percutante, il faut que chaque réponse amène une réponse, et qu'il y ait une progression, tout ça dans un temps extrêmement tendu, concis. Moi en reportage, c'est plus quelque chose, mais c'est ma façon de faire. J'ai d'autres collègues qui travaillent, de confrères qui travaillent totalement différemment. Mais moi, ça intervient au cours d'une discussion. C'est lent. Il peut y avoir. Je vais garder beaucoup d'ambiance. On va discuter. On va revenir. Et puis très souvent, ça tu le sais, c'est quand on coupe le micro que hop. Il y a quelque chose qui se recrée, parce qu'il y a une forme de tension qui s'en va. Donc hop, on sait qu'il ne faut jamais garder le magnéto complètement fermé. On rallume très très vite. Les choses se font très différemment. Donc je peux ramener beaucoup de rush. En même temps, je dois être extrêmement concentrée sur ce que me dit la personne, parce que si je dois réécouter à chaque fois sur un reportage, par exemple, d'une minute 15, si je dois réécouter 40 minutes d'interview, c'est mort. Concrètement, parce qu'en une journée, je ne fais pas qu'un seul reportage d'une minute 15. On en fait plusieurs, plus des directs dans la journée. Donc, il faut vraiment que ça aille très, très vite. Donc, il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va garder de l'interview. Enfin, en cours d'interview, d'ailleurs, je sais très souvent, je me dis, tiens, toc, c'est là, sur cette phrase-là que je vais garder. Mais donc, tout ce matériel qu'on récupère, ensuite, il va falloir qu'on le mette en onde. Donc, ça veut dire qu'on sait sur un reportage d'une minute 15, on va mettre un ou deux sons de 10 secondes. C'est horrible pour les gens qu'on a interviewés et qu'on a emmerdés pendant 40 minutes et puis qui se retrouvent parfois sur juste 10 secondes à l'antenne. Il y a tous ces sons d'ambiance qui sont importants. Et puis, il y a notre texte qu'il faut rajouter et qui doit dire des choses, contextualiser tout ça. Et donc, avec cette contrainte du temps qui est absolument insupportable. Je pensais récemment à un reportage il y a quelque temps avec une femme syrienne dont le mari avait été enlevé par Daesh et elle avait fini par fuir la Syrie avec ses enfants en Allemagne. Et je fais cette interview avec cette femme qui était très, très marquante. Puis après, il a fallu que je monte mon interview. Et cette femme... Et je regardais sur l'écran de mon ordinateur, donc quand on monte, on a une mire de montage comme ça, avec la voix qui monte, ça fait des vagues vertes comme ça. Et chaque fois qu'elle me disait quelque chose, elle me disait « Alors tu vois, un matin ils sont venus le chercher. » Puis 3 secondes de silence. Où elle me disait, puis elle continuait sa phrase, et puis elle me disait « Tu vois... il faudrait que je trouve du travail. Parce que ça m'occuperait la tête. Parce que j'arrêterais de me poser des questions. Où il est, machin, nanana. » Et puis, à nouveau, du blanc. Et ça, c'est blanc. C'est 3, 4, 5 secondes de blanc. Elles disent 10 fois plus que les 3 mots d'avant. Sauf que quand vous faites un sujet d'une minute 15, vous en faites quoi, du blanc? Ça, c'est infernal, en fait. C'est les arbitrages... moi, c'est des trucs que je trouve très, très difficiles à faire. C'est cette contrainte, en fait, de devoir être dans le temps.
On va écouter un autre reportage. Là, pour le coup, je crois qu'il est plus long. C'est un 3 minutes, mais on ne va peut-être pas l'écouter en entier, que tu as fait en République centrafricaine dans l'ancien palais de Bokassa.
Ouais. Oui. Ah oui, même, en fait, c'est un extrait d'un magazine beaucoup plus long que ça, qui fait 30 minutes. Pour contextualiser, donc on est en pleine guerre en Centrafrique, il y a des milliers de morts. Je ne vais pas revenir sur le conflit centrafricain qui est extrêmement complexe, et en plus le réduire, en fait, à la guerre entre chrétiens et musulmans, c'est extrêmement réducteur. Bon, il y a un peu de ça, une instrumentalisation du fait religieux. Et là, on est à 2 heures, 3 heures de route de Bangui, la capitale. On est à Bobangui, en fait, qui était l'ancien palais de Bokassa. Donc, il faut imaginer un endroit qui, un jour, a été complètement fastueux et qui est là, complètement perdu, quasi inaccessible, et dans lequel se sont réfugiés des rebelles de Séléka qui sont planqués là. Ils sont complètement barricadés dans ce truc-là depuis des semaines, après avoir été chassés. C'est un truc complètement surréaliste parce que tout est à l'abandon, dans un état incroyable. Il y a ces types qui ne mangent que des rats. On est allé avec eux chercher des... ils bouffaient que des rats et de l'herbe, bouffés par la typhoïde. Il y avait des morts tous les jours dedans. C'est un endroit, mais juste... surréaliste, et donc on arrive là-bas. Voilà.
Torture, exécution, mégalomanie, paranoïa, c'est ici, à Berengo, que Bokassa avait décidé d'installer sa cour.
Et est-ce que vous pouvez me le faire visiter, cet endroit? Vous pouvez me montrer qu'est-ce que c'était l'ancien palais de l'empereur Bokassa Ier?
Ok, on peut y aller.
De ce domaine fastueux, il reste une piscine, aujourd'hui emplie d'une eau verdâtre et croupie, où nagent des crapauds et des serpents. Cette enceinte, au mur noirci de graffiti, où tout a été volé et revendu jusqu'au dernier fil de cuivre, cette enceinte où se sont déroulées et décidées les coulisses meurtrières d'une dictature dont la puissance impressionne encore aujourd'hui les hommes de Berengo. Au bord de la place d'armes, un escalier descend vers un souterrain.
Nos micros sont ouverts si tu veux commenter ou dire quoi que ce soit, c'est possible.
Alors déjà, en termes d'ambiance, on entendait là, les bruits comme ça de descente. Tout ça, c'est très important en fait pour construire tout ça.
Et la porte aussi, le boom.
Et le boom, qui n'est pas une porte, on le voit après, mais on entend ce boom.
C'est la résidence présidentielle.
C'était pour sa sécurité, peut-être, qu'il était dans le sous-sol.
Donc c'était un des endroits où se planquait Bokassa, en fait, pour dormir. Donc il faut imaginer un souterrain, c'est un peu flippant, tout noir. On est avec, là autour de moi, il y a une quarantaine de types en armes, comme ça, avec... qui ont l'air un peu... certains sont très malades, et puis ils ont faim, quoi. Ils ont vraiment très faim.
Dans l'autre endroit, de l'autre côté-là, c'est très dangereux. Il y a un grand serpent dedans.
Ils ne veulent pas qu'on aille plus loin.
Et c'est quoi l'autre endroit ?
L'autre entrée du sous-sol. C'est très, très dangereux. Là où l'empereur dort.
Mais l'empereur, il n'est plus là.
Oui, il n'est plus là. Mais il y a un grand serpent encore.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a encore ici qu'on peut voir ?
Ici, il y a un chemin souterrain qui se conduit jusqu'à l'aéroport.
Jusqu'à l'aéroport de Bobangui ?
Non, à l'aéroport de Berengo.
Donc ici, il y a une piste d'atterrissage. Voilà.
Oui.
Et ce souterrain où nous nous trouvons, il permet d'aller jusqu'à la piste d'atterrissage.
Pour aller là-bas dans le souterrain, c'est très dangereux.
C'est là où il y a le serpent.
Oui.
Les hommes détournent le regard. Au fond du souterrain, on entend surtout frapper contre les tôles. Ils font presser le pas. La tension est énorme. Ici, on se méfie les uns des autres. Mais en qui croire ? Même l'État, qui avait promis aux Séléka des armées de s'occuper d'eux, les a laissés à l'abandon.
Et en fait, ce qu'on a compris en avançant dans le souterrain, c'est que les bruits effectivement, qu'on entendait, c'était des prisonniers qui, en entendant notre présence, essayaient de se faire remarquer et qui sont probablement morts quelques jours après notre départ.
Ça, tu le dis dans la version longue ou tu ne peux pas en parler ou...
On n'a pas la preuve de ça, mais quand on est ressorti, du truc, j'ai dit au type, il fait beaucoup de bruit le grand serpent. Et le type me dit, je ne sais plus, enfin, c'était très, 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 très tendu. Et là, dans ces cas-là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur dit au type Moi, j'ai bien compris qu'il y avait des mecs derrière le mur.
Ce qui est étrange dans tout ce que tu racontes, mais c'est une question faussement naïve, c'est qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a toujours un décalage entre ce que tu vois et vis et ce que tu peux raconter. C'est-à-dire que tu nous parles du témoignage de la personne qui s'interrompt entre chaque phrase 3 secondes et tu ne peux pas le raconter ou le mettre. Tu nous parles des 50 hommes armés qui sont autour de toi et on ne l'entend pas dans le sujet.
Alors ça, on l'entend avant dans ce documentaire-là, dans ce magazine-là.
Il y a toujours des contraintes de format.
Il y a toujours cette contrainte de format. Dans ce magazine aussi, on dit qu'est-ce qu'on raconte ? Est-ce qu'on raconte que ça ou est-ce qu'on raconte le reste, le contexte ? Bon, là, c'est un magazine qui est assez long, donc tout ça on le raconte plus en détail.
Mais il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que tu n'as pas de preuves ou que tu
l'as
pas vu.
Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on n'a pas de preuves. Donc dans ce cas-là aussi, c'est l'idée du reportage, enfin en tout cas comme moi je le vis, c'est de prendre l'auditeur avec moi, vraiment, enfin qu'il soit là à côté, c'est-à-dire que quand j'entends quelque chose, il l'entend. Quand je m'interroge sur quelque chose, je pense que dans mon texte, il faut qu'on sente l'interrogation, on sente l'incompréhension si besoin. Le reportage, en fait, c'est quelque chose. On va sur place, on rapporte, on contextualise, on donne des informations, mais on rapporte quelque chose d'extrêmement sensitif, en fait, dans le reportage. C'est presque un état...
Charnel.
Ouais. Ah, c'est quelque chose qui fait vraiment appel au sens. Même moi, je suis vraiment la fille la plus distraite au monde, j'allais dire dans le civil, etc. Et tout. Et c'est très bizarre, c'est que quand je suis en reportage, j'ai presque l'impression qu'il y a un état de reportage où j'ai presque tous les chakras ouverts. Enfin, c'est très très bizarre. Enfin, je pense que les reporters sentent ça, mais d'un coup, il y a une espèce d'hyperacuité au bruit, aux odeurs, au son, une forme d'empathie avec la personne en face. Enfin, en tout cas, il se passe obligatoirement quelque chose. Enfin, moi, je sais que je me mets en état de reportage. C'est pas quelque chose de très différent de ma vie, quoi.
parce que c'est aussi compliqué à distance de garder le contact avec le bureau à Paris, fournir tout ce qu'on te demande de fournir quand on te demande de fournir des choses toute la journée, rester concentré sans, et puis sans le confort d'un bureau pour travailler, sans, etc., etc. Donc c'est ce qui nécessite d'être hyper concentré, efficace.
Mais moi j'adore ça en fait, hein. J'adore ça, et là encore je vais dire un truc, mon Dieu, mais pourvu que mes patrons ne m'entendent pas.
Ça reste en ligne pendant, enfin, jusqu'à la fin d'Internet.
Non, mais je pense qu'il y a une forme d'inconfort ne nuit pas au reportage. J'ai beaucoup de mal, en fait, bon, même si ça m'arrive de le faire, du reporter qui part, qui va dormir dans un hôtel standardisé ou qui soit sur la planète, etc. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense qu'effectivement, le reportage, il y a une chose qu'il faut absolument qu'on fasse, c'est sécuriser nos moyens. C'est la première chose, c'est sécuriser nos moyens de transmission. Donc, il faut trouver un endroit où il y ait du courant, si possible, du téléphone, etc. Et tout. Donc, c'est ça. Souvent par facilité, ce qui fait qu'on va aller effectivement dans un hôtel et compagnie. Mais tu le sais comme moi, le reportage, il commence pas, enfin, il s'arrête pas à 20h le soir quand on a fini ses interviews et quand on va les monter. C'est pas vrai. Le reportage, il se continue parce qu'on va rester, parce que peut-être quelqu'un qu'on a vu dans la journée, il va s'être passé quelque chose. Et généralement, enfin, j'essaie de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Sinon, ça me Moi, j'y vais de façon très égoïste. Il faut d'abord qu'il se passe des choses pour moi. Un reportage, c'est mon aventure que je partage, mais il faut que ce soit aussi une... Et donc, si on me dit, mais vous voulez pas venir manger ce soir à la maison, eh ben, même si je sais que je vais avoir du boulot jusqu'à 5h du matin, mais c'est oui, évidemment, je vais manger chez les gens. Donc, ça veut dire souvent, je vais faire les courses avec eux avant. Il m'est arrivé de rester dormir comme ça chez les gens si ça se faisait, parce que expérimenter l'inconfort éventuellement d'un lit, le froid dans une maison, ça dit tellement de choses qui vont venir nourrir aussi le reportage. On ne parle pas pareil, les gens ne vous parlent pas de la même façon une fois que vous avez partagé un repas, une fois que vous avez passé du temps avec eux. Aller faire les courses avec quelqu'un dans un pays, c'est extrêmement indicatif du coût des choses, de comment on fait la bouffe, de qui on va servir à table en premier. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent. Et quelque part, donc... L'inconfort qu'entraînait par exemple la précarité de la pige qui est obligée à trouver des moyens de... Voilà, si je voulais faire mes reportages, je ne risquais pas d'aller à l'hôtel. Hein, donc, et d'ailleurs, je vois Mehdi Benchella qui est ici et qui était correspondant à Gaza à la fin des années 90 et chez qui gentiment nous hébergeait quand on allait en reportage à Gaza. Ben c'est justement, voilà, quand on est pigiste, on n'a pas les moyens d'aller à l'hôtel la plupart du temps, donc toutes les portes qui s'ouvrent sont bonnes.
On va regarder très rapidement une vidéo que tu as partagée avec nous qui est très impressionnante, qui vient de Centrafrique. Tu en as mis deux des vidéos dont on partage.
Tu
te souviens plus. Tu vas vite te souvenir.
Ah oui, ouais.
Donc ça, c'est un à côté. Oui, ça extrêmement c'est des... différent, enfin une coulisse
ça,
extrêmement différente.
C'est d'autres
différent.
Choses qu'on peut faire, oui, parce qu'alors on peut faire aussi en reportage ce qu'on appelle des embeds. Et donc ça, c'est avec les forces françaises en Centrafrique. On part dans l'ouest du pays, à la frontière du Cameroun. Donc c'est on part en hélicoptère parce que bien sûr, il n'y a qu'une route en fait. La Centrafrique est un pays tellement failli qu'il n'y a qu'une route qui mène vers le Cameroun. Et la plupart des routes sont bloquées par les coupeurs de route. Donc les déplacements avec l'armée se faisaient effectivement en hélicoptère. Donc ça, c'est sûr que c'est le genre de truc, quand on est une gamine de 8 ans de Montpellier, on s'imagine pas qu'un jour, on va faire un tour en hélico avec les pieds qui pendent au-dessus de la Centrafrique. Je pense qu'à peut-être un moment dans la vidéo aussi, on voit peut-être les mines d'or.
Ah ouais.
Avec toute cette exploitation des diamants, vous savez, des fameux diamants de sang qui viennent alimenter les guerres dans cette région.
Toujours en alors Peut-être sur le fait d'être embarqué avec l'armée ou sur les différents contextes de reportage, tu souhaites dire un mot. Et tu as partagé avec nous aussi des carnets, parce que tu prends beaucoup de notes, notamment des choses que peut-être tu ne peux pas raconter parce que manque de temps ou trop difficile ou trop compliqué. Et du coup, tu ne sais pas encore ce que tu vas en faire. Peut-être que tu vas en faire quelque chose un jour. Tu as déjà publié deux livres, un sur la crise en Égypte. Et un sur l'islamistan, c'est ça ? Donc,
oui.
Sur les djihadistes.
Les islamistes, en fait, au sens large. Ouais.
Au sens large, qui est là d'ailleurs, si vous voulez, je peux le faire passer. C'est mon exemplaire à moi, donc vous me le rendrez. Je ne sais pas si quelqu'un veut le prendre, ouais. Si vous voulez jeter un œil. Merci beaucoup, monsieur.
C'est pour moi ?
Non, oui, c'est ça. Donc, sur l'embed.
L'embed, donc, ce qu'on appelle l'embed, c'est quand on.
Il n'y a pas un mot en français, je cherchais.
Incorporation, je ne sais pas si c'est ça.
Embarqué.
D'être embarqué, en fait, avec les moyens logistiques.
Les Québécois doivent dire enlitement ou quelque chose comme ça.
Par exemple, avec l'armée, mais ça peut être aussi avec des ONG ou des organisations, etc. Alors moi, c'est quelque chose que je ne pratique quasiment jamais. Ça, je crois que c'est mon seul.
Là, tu étais en bête juste
une journée.
Sur place et
ouais,
une journée avec eux, mais c'est pas eux qui t'ont fait venir.
Non, c'est pas eux qui m'ont fait venir. Et je suis restée sur ce reportage-là. Je crois que je suis restée plus de 2 semaines en Centrafrique. Ouais, 2 semaines. Et j'ai fait un seul déplacement avec eux. C'était pour aller dans ces coins-là où j'aurais pas eu la possibilité, d'une part, d'aller. Et deux, c'était pour montrer le travail de l'armée. Ça me permettait de montrer de l'intérieur le travail de l'armée. Il y a aussi des possibilités parfois de faire comme ça, d'être des, je veux dire, c'est des voyages de presse, hein, les embeds quelque part, donc on est soumis aux conditions logistiques et à ce qu'on veut bien vous montrer, en fait. C'est un peu le deal, moi, effectivement. Je pense que quand on accepte d'être embedé, ça veut dire qu'on accepte. Pour des raisons qui sont bien comprises, les conditions dans lesquelles vous faites ce reportage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous amuser à notamment, par exemple, là, à échapper, entre guillemets, à l'armée pour aller vérifier 2-3 trucs à côté. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous avez dit « Ok, je viens avec vous », c'est que vous acceptez de vous mettre sous leurs conditions de sécurité et qu'il faut être tout à fait conscient qu'on vous montre que ce qu'on veut vous montrer. Alors après, vous posez toutes les questions en étant conscient de ça, et je pense qu'il faut que ça s'entende dans le reportage, et il faut que ça soit dit dans le reportage.
Que ce soit transparent.
Il faut que ce soit transparent. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait des embêtes qui soient faits, pourquoi pas, à condition qu'on sache d'où on parle et dans quelles conditions ça a été fait.
Tout à fait d'accord. J'ai imprimé, du coup, je ne sais pas si tu veux partager la lecture. J'aurais 2 autres questions rapidement, peut-être une écoute, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Le temps passe très vite. Et du coup, si tu veux, juste après la lecture, on pourra donner la parole au public pour des questions. Il y a des micros qui peuvent circuler.
Alors, je disais, oui, parce que donc, ces histoires de carnet de reportage, j'expliquais quand on a pensé parler de cette rencontre aujourd'hui. Donc, moi, je viens plutôt de la presse écrite plus que de la radio. Donc l'écrit est plus simple, en fait, pour moi. Même en radio, j'ai une écriture qui est très écrite, en fait. Je parle beaucoup plus que... Enfin, je dis plus de choses, mais mes scripts sont plus longs souvent que ceux de mes confrères. Et il y a des choses que je n'arrive pas à dire en radio. Et donc je disais à Ziad qu'un des plus gros ratés en reportage, je pense, était en Centrafrique, justement, sur pourtant... un événement qui a été qui est toujours quelque chose d'assez traumatisant pour moi, parce que c'est quelque chose d'assez violent, puisqu'il s'agissait de la mort d'un homme devant nous. Je dis nous parce que j'étais en voiture à ce moment-là avec le centrafricain qui conduisait la voiture, Alban, mon technicien Philippe, qui à la suite de ça a arrêté le reportage en zone de guerre, et moi. Et donc c'était extrêmement violent ce à quoi on assistait, et j'ai dû faire un papier pour la radio le lendemain. Mais vous savez pas comment raconter ça, en fait. Vous savez pas raconter. C'est tellement violent que vous ne savez pas s'il faut d'écrire ce que vous avez vu, or d'écrire ce que vous
pour
avez vu.
Pour des raisons
vu.
Simples, hein, c'est que le journal du matin peut être écouté par une famille, avec des enfants,
être, ça peut être écouté par des enfants, vous ne savez pas comment votre sujet va être reçu. Et puis, il y a aussi quelque chose d'un peu... Enfin, on parle de quelqu'un, et on n'a pas forcément non plus les bons mots pour décrire quelque chose sans que ça devienne juste. Moi, j'avais très très peur que ça soit sensationnaliste juste. Et du coup, dans ce reportage, j'ai essayé de mettre de la distance. Or, comment mettre de la distance si vous êtes à ma place, vous voyez quelqu'un se faire tuer et dépecer à 10 mètres de vous. Vous n'êtes pas un robot, quoi. Et il ne faut pas qu'on attende du journaliste non plus qu'il soit un robot. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et du coup, comme ça, il y a plein de choses en reportage radio que je trouve difficile à dire à l'antenne. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur certains. Voilà, cette femme avec ses silences, tout ça. Finalement, chez moi, ça sort parfois mieux à l'écrit et dans une forme d'écriture qui ne ressemble pas non plus à ce que je faisais en presse écrite avant. Donc, du coup, j'ai ces carnets de reportage, en fait, depuis des années où, tous mes reportages, j'ai mes à côté, j'ai ces moments avec des gens, j'ai ces trucs foirés. Ça vous en ferez rien à l'antenne et pourtant ça veut dire plus que beaucoup de choses, c'est beaucoup plus perso et puis ça me replonge plus dans ces moments-là que les sujets que j'ai pu effectivement diffuser à l'antenne, quoi.
Tu veux lire ?
Et donc celui-ci, voilà, alors en même temps je disais Asiade, c'est pas fait pour être lu, donc et je les ai jamais lus, donc alors Bangui le 7 mars. Je me suis demandé comment l'écrire, comment témoigner. J'ai pensé à Dieu merci, petit bonhomme rigolard qui brandissait hier matin son cahier de classe en nous réclamant des stylos. C'était juste quelques minutes avant. On était dans le camp de Mpoko, cette fourmilière couleur de boue, plombée par la chaleur où 70 000 personnes survivent depuis 3 mois au quotidien. Il était un peu plus de midi et Dieu merci et ses yeux brillants nous faisaient sourire. Puis il a vu un attroupement, il est parti voir. Et il a vu cet homme qui passait en courant et qui brandissait fièrement un bras coupé. Je ne sais pas ce que Dieu merci en a pensé. J'ai juste vu les gens autour lever à peine un œil anesthésié et le rebaisser. Allez, eh ben oui, tant pis, c'est comme ça. Puis j'ai pensé à parler de la bâche qu'on a vue se tendre sur la silhouette de cet homme, là-bas sur le goudron de la rue. Ça, c'était à peine plus tard et pas très loin de là. J'ai pensé à raconter les blindés tout autour qui avaient été prévenus, appelés en renfort pour empêcher que ça continue, les soldats harnachés, la tension terrible et les gens sur le côté qui regardaient en disant « c'est bien fait » et ceux qui regardaient sans voir. Allons, un mort de plus finalement, qu'est-ce que c'est ? Rien à voir à côté de décembre dernier quand à l'échelle de la ville et du pays, la folie meurtrière avait déferlé. Et puis il y a eu coup de coup encore. Pas d'autre choix que de l'emprunter, cette avenue pillée, saccagée, pour partir de là où nous étions. Ce corps, les soldats, la foule. Sur coup de coup, il n'y avait pas une voiture et personne dans la rue. On roulait vite. Et Philippe a dit « Putain, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Alban n'a rien dit, mais derrière son volant, j'ai vu ses yeux s'écarquiller. Devant nous, à une dizaine de mètres, on a vu des hommes s'acharner sur un corps. On l'a vu le dépecer à coups de machette. Il faisait ça en plein jour, au milieu de la rue. Ailleurs dans la ville, c'était calme. On n'est plus comme il y a 2 mois dans les vagues massives d'exactions. À Bangui, la prison centrale vient à peine de rouvrir, mais il n'y a personne pour arrêter ceux qui tuent encore, tranquillement confiants dans leur impunité. La police, la gendarmerie, l'état de droit, tout est à rebâtir. Alors ceux qui tuent le savent, qu'est-ce qu'ils risquent ? On est incapable de dire combien de gens sont morts depuis le début de cette crise, incapable de mesurer à quel point chaque centrafricain est détruit par ce qu'il a vécu. Et j'ai pensé que ça, je n'arriverai jamais à le raconter. Je ne sais pas comment parler de la mort d'un homme qui ne sera peut-être même pas couché dans un registre d'état civil, ni comment on peut supporter qu'existe une telle impunité.
On va prendre quelques questions, si ça vous...
Sur ce moment très joyeux.
Madame.
J'ai l'impression que les journalistes français, les reporters, ils ont une tendance à faire du tourisme là-bas. Mmh. Et je suis vraiment très convaincue. Bien sûr, j'ai un respect pour vous. Je vous ai attendu très très souvent à RFI. que vous avez perdu peut-être dans votre âme à France Inter. Il y a beaucoup de dépendance par la direction, hein, parce que les journalistes français ne sont pas du tout indépendants. Vous faites très bien la littérature, ça, mais vous prenez les téléspectateurs, les auditeurs, comme des enfants. Il y a un infantilisme dans ce pays-là qui est écœurant.
Par rapport à pays, madame ?
Vous pensez à quoi ? À la Centrafrique ?
Non, mais
par rapport à quel pays ?
Tout ce qui s'est fait, je ne parle pas de vous. Hein.
Moyen-Orient. Vous avez l'expérience de quel pays où ça serait différent ?
La France, non, d'accord, quand mais il vous veut dites parler, que... quand il veut parler, quand il veut diffuser sur le Moyen-Orient, on n'a pas une analyse vraie. D'accord. Moi, je la prends Culture Monde, par exemple, France Culture, de 11h à midi, que je me trouve.
Qui est une formidable
avec
émission.
Avec plaisir, formidable. Ouais. Et le journaliste, il est exceptionnel, il fait de la politique. Vous ne faites pas de la politique. En dehors de ça, il n'y a pas de politique.
Alors, merci pour répondre à votre question, tout d'abord,
merci pour votre question.
Merci. Tout d'abord, donc j'ai jamais travaillé pour RFI en fait, c'est lui RFI, c'est pas moi. Par contre, j'ai effectivement travaillé à France Culture où est cette émission Culture Monde, qui est une émission formidable d'ailleurs que je vous conseille. Effectivement, c'est une quotidienne tous les jours, qui est en plateau. C'est de l'analyse effectivement en plateau. Moi, il m'est arrivé de participer à Culture Monde, mais à la radio, moi, je fais du reportage en fait, donc c'est encore autre chose. Non, j'espère que je fais pas partie des gens qui prennent les auditeurs pour des enfants, parce qu'au contraire. J'ai un côté un peu ayatollah à penser qu'il n'y a pas de sujet dont on ne puisse parler. Mais pour ça, ça demande un certain effort. C'est-à-dire que je pense qu'on peut parler de tout, y compris à des enfants. Je pense qu'on peut expliquer absolument tous les sujets. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait ingurgité soi-même l'information pour pouvoir la régurgiter de façon intelligible. Donc ça demande quand même beaucoup de travail, mais j'espère qu'on prend pas les gens pour des enfants. En tout cas, moi, ma façon de voir les choses, en plus, et je lutte contre ça au quotidien, c'est une vision manichéiste du monde. Je ne supporte pas ça. Mais vraiment, je ne supporte pas ça. Je pense que tout est une zone grise. Complexe. Pour avoir beaucoup travaillé justement au Proche-Orient, je pense qu'il est complètement ridicule de catégoriser les gens. Ziad parlait tout à l'heure d'Islamistan, le dernier livre que j'ai écrit, c'est justement là-dessus.
Vous l'avez encore ?
Sur les portraits d'islamistes au sens large, parce que c'est un mot valise qui sert à tout et qui je trouve entraîne à la caricature. Donc j'espère que ma façon de travailler c'est pas une caricature, mais je pense que la majorité de mes confrères aussi cherchent à ne pas tomber là-dedans. Mais on n'est pas exemple de critique, hein, rassurez-vous. Je pense que
on va prendre une autre question.
Oui. Moi, je suis dans un cas où nous comprenons que vraiment votre travail est très, très difficile, sauf que dans le cas de Centrafrique que vous avez pris, aux mêmes heures, au même moment, à la même tension, au Congo-Brazzaville, il y avait une guerre où, du fait de l'État, on attaquait toute une région également. Sauf que c'était interdit d'en parler ici en France. Alors je n'arrive pas à comprendre...
Vous parlez de quoi précisément, monsieur ?
Et au Congo-Brazzaville, il y avait le poule qui était attaqué par le gouvernement, mais que le gouvernement français avait dit qu'il ne fallait même pas en parler, parce que sinon ça ferait des bouleversements ici en France. Et il n'y a jamais eu même une phrase là-dessus. Mais ça vient de se résoudre seulement hier.
Écoutez, moi, je n'ai jamais eu... Ça fait 20 ans que j'ai une carte de presse. Moi, j'ai jamais eu une censure quelconque sur un sujet. J'ai jamais eu une omerta, enfin que ce soit de ma direction ou du gouvernement ou quoi que ce soit. Et pourtant, je travaille pour le service public, mais je Non, je pense que au Congo-Brazzaville, je pense à RFI notamment, c'est quand même un sujet qui a été très largement couvert et qui vous coûte assez cher en termes d'abord de vie humaine, on peut dire, de nombre de reporters de RFI qui y ont laissé leur peau sur le terrain ou qui sont emprisonnés ou expulsés de pays parce qu'ils parlent de conflits qui ne font pas plaisir. Je pense que...
En tout cas, c'est très difficile de dire, d'affirmer la France interdit de... Enfin, je ne sais pas quelle est votre source, monsieur, mais bon, je ne crois pas qu'il y ait débat sur... Après, qu'il y ait des sujets qui intéressent moins certains médias ou qui sont moins traités par certains médias pour des raisons qui échappent même souvent à la logique. Oui, ça arrive beaucoup. Mais voilà, on a beaucoup parlé des opérations... Dans les grands médias français, on a beaucoup parlé des opérations où des soldats français étaient impliqués parce que les gens sont plus concernés, ça les intéresse plus. Et c'est vrai qu'on parle moins de faits qui sont plus sectorisés, moins connus, de la situation au Congo RDC, au Congo... Mais pour ça, aujourd'hui, on a quand même les moyens de s'informer dans plein d'endroits différents, dans plein de pays différents aussi en même temps. Donc voilà, si on n'est pas satisfait de la couverture que fait TF1 ou autre de tel ou tel sujet, on a les moyens aujourd'hui de s'informer de tellement de manières que on est quand même dans une période de grande liberté, de grande richesse.
Avec la difficulté aujourd'hui, ceci dit, qu'il y a de plus en plus de zones ou de conflits qui deviennent difficiles à couvrir pour des raisons de danger, de sécurité. Par exemple, moi j'ai été en Syrie pendant la guerre, mais il y a eu un moment où il a fallu s'arrêter d'y aller parce que c'était devenu trop dangereux pour les journalistes qui étaient pris en otage. Il y a des régions du monde qui sont complètement bloquées, c'est extrêmement difficile. Moi je croise les doigts, mais je devrais pouvoir partir le mois prochain au Sud-Soudan. Ça fait plus de 6 mois que j'y travaille, que je n'ai pas la garantie d'obtenir un visa. Aller couvrir le Yémen, c'est extrêmement compliqué. Voilà, il y a tout un tas de zones qui nous sont quasi inaccessibles.
Il y a un changement de l'univers communicationnel où des parties entières, par exemple Daesh en Syrie, n'a plus besoin de médias de masse pour communiquer parce qu'ils ont accès directement à des médias de masse sans passer par les journalistes. Donc ça change la donne et ça change l'accueil qu'ils réservent à des personnes qui en plus valent de l'argent et qui sont des monnaies d'échange. On va donner la parole à une autre question. D'accord, monsieur. Si ça vous dérange pas, on va prendre une autre question. En plus, il faut parler avec le micro pour que tout le monde entende. Oui. Merci en tout cas pour vos précisions et votre question.
Je vais prolonger en fait sur le Congo.
Sur quel Congo? Brazzaville?
Oui, c'est ça. D'accord. On a parlé qu'un seul Congo, non? Enfin, que d'un seul Congo. Je suis resté en fait sur ma faim. Vous avez dit que au-delà du clivage confessionnel entre musulmans et chrétiens, vous avez une autre analyse en fait à apporter. Quelle est-elle, s'il vous plaît?
Donc en République centrafricaine, pour le coup.
Alors je veux.
Merci.
Si ça vous embête pas.
Mais je vais avoir du mal à vous faire un point sur la République centrafricaine là, parce qu'on va y passer déjà la soirée et tout. Mais oui, le conflit en RCA, il s'inscrit quand même dans une dynamique régionale, puisque tous les pays voisins de la Centrafrique y jouent un rôle plus ou moins directement, ne serait-ce que par la présence des casques bleus et que les rebelles Séléka qui ont déferlé sur la capitale Bangui étaient pour beaucoup composés de Tchad. Ou influencé par le Tchad. Le Congo est juste de l'autre côté de la rivière, du fleuve Ubangi. Donc oui, les implications régionales, elles sont énormes dans le conflit centrafricain. Mais là, c'est peut-être un petit peu compliqué d'en parler ce soir sans revenir aux sources de ce conflit dans ce pays.
Merci pour cette question. Donc je vois une main qui se lève ici. Est-ce qu'il y en a d'autres ou... Ouais, ici juste devant, deux mains. Donc, madame et monsieur, ça vous va? On va commencer par madame. Donc, madame en bleu, avec voilà. Bonsoir.
Bonsoir, madame Guipel. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté de nous mettre comme ça en scène. C'est assez rare. et de parler un peu des coulisses, des choses, et aussi d'une intimité que vous avez vécue. C'est rare, c'est bien. Et je voulais juste, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, moi je suis ethnologue, mais je me suis toujours posé la question, pas forcément parce que vous êtes femme, et loin de là, voilà, mais qu'est-ce qui peut pousser comme ça des êtres humains à aller sur ces terrains-là? C'est juste une curiosité, après...
Quand vous dites ces terrains-là, vous...
Ben, ces terrains difficiles, belliqueux, très politisés, enfin c'est compliqué, quoi.
Alors, voilà. Moi, d'abord, je ne fais pas que du terrain. Alors, je ne fais pas que du conflit. D'ailleurs, j'ai un peu de mal avec le terme journaliste de guerre, que je ne suis pas. Il m'arrive d'aller dans des terrains en guerre, mais je ne fais pas que ça. Alors, je fais effectivement plutôt des zones compliquées, ne serait-ce que parce que j'ai un tropisme proche-oriental qui fait que je travaille beaucoup sur cette région qui est loin d'être apaisée. Il y a, si je dois être totalement honnête, en allant dans des zones comme ça, des zones en crise, vous arrivez dans un quotidien où tout est à l'os, en fait. Et dans les guerres, dans les conflits, dans toutes ces situations difficiles, il y a vraiment cette... des rapports voilà qui sont très très directs, très francs. Ça exalte quelque chose, les gens se révèlent souvent à eux-mêmes dans ces moments-là. On arrive dans le quotidien de personnes qui voient leur vie souvent bouleversée, et tout est exacerbé, en fait. C'est quelque chose aussi de façon très égoïste qu'on perçoit, voilà, comme on arrive à des moments extrêmement forts de la vie des gens où vous êtes le réceptacle d'espérance, de peur, de messages qu'il va falloir transmettre, retranscrire. C'est des moments extrêmement forts à vivre, et très 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 forts à vivre, perturbants aussi parce que ça pose beaucoup de questions sur soi. Je parlais tout à l'heure de mon dégoût du manichéisme, c'est-à-dire que quand vous allez interviewer un gros vrai méchant salaud, parce que ça vous arrive, vous allez interviewer un tueur, vient le moment quand même dans l'interview où, en fait, moi dans mon travail, j'essaie toujours de faire un... Alors, je suis nulle en maths. Hein. C'est quoi, c'est un 180 ou un 380 degrés? En fait, bon, j'essaie de me mettre... De faire le tour et... 360,
tu reviens à ta position. 180, tu te retournes.
Et donc, de voir... d'essayer de comprendre le monde ou une situation par les yeux de la personne qui la vit.
C'est 180, là. Pour
le... Donc, c'est 180. Et donc, ça oblige à faire ce travail. En fait, je suis qui je suis avec mon histoire, en fait, mais je crois vraiment qu'on est chacun le produit d'un environnement, d'une histoire familiale, d'un pays, d'une religion, éventuellement, si on a été élevé là-dedans, et que tout ça, on le transporte avec nous. Et je sais que systématiquement, en reportage, je me dis toujours, et si c'était moi, enfin, si c'était moi en face, qu'est-ce que c'est qui fait qu'on fait un choix ou l'autre? On voudrait tous être des héros, hein, y a pas de souci. Quand une fois qu'on connaît la fin de l'histoire, on sait toujours de quel côté on aurait dû être. Le truc, c'est que quand on vit cette situation là au quotidien, qu'est-ce que c'est qui provoque l'héroïsme ou l'inconscience ou le mauvais choix, qu'est-ce que c'est qui préside à tout ça, qu'est-ce que c'est qui explique pourquoi un pays peut basculer, qu'est-ce que c'est qui explique pourquoi on peut soutenir une dictature ou pourquoi on peut au contraire se révolter contre. Et je suis toujours dans cette démarche-là d'essayer de regarder une situation par les yeux de celui qui la vit. J'allais dire le problème... ou l'inconfort possible, c'est qu'à un moment, vous êtes en empathie avec avec la personne qui est en face de vous, parce que vous allez d'un coup arriver à comprendre pourquoi ce choix, pourquoi ceci, et qu'il faut savoir mettre une ligne rouge, il faut garder soi-même son espèce de ligne rouge absolue pour pas tomber dans la complaisance. Et une fois qu'on sort justement de ce moment de reportage, et qui fait que non plus dans le questionnement, il faut pas qu'on soit complaisant, Mais on est là pour comprendre. Et moi, pour que les gens me parlent, il faut que les gens sentent que je suis sincèrement intéressée à comprendre pourquoi ils agissent et pas à les juger. Et cet aspect de non-jugement, il est important. Ou quand il y est, je veux qu'il soit explicite. C'est-à-dire que je vais dire à quelqu'un, écoutez, moi je suis très mal à l'aise avec ça, ou je ne suis pas d'accord avec ça, mais je voudrais comprendre, je voudrais que vous m'expliquiez. Et pour ça, je pense qu'il y a un rapport de confiance qui doit vraiment s'établir avec la personne en reportage. Et ensuite, tout le travail consiste, une fois qu'on va tout déconstruire, ce qu'on a entendu dans la journée, pour reconstruire une histoire qu'on va servir en 1 minute 15 ou 3 minutes le lendemain, c'est de pouvoir à la fois être dans cette empathie de compréhension et donner tous les éléments de contexte qui vont permettre de rendre la complexité en fait d'une situation. Et c'est ce que je disais, c'est que c'est toujours extrêmement inconfortable quand à un moment vous arrivez à vous pouvez être perturbé par une forme de proximité avec quelqu'un qu'a priori vous détestez ou dont vous détestez les agissements, et où à un moment vous êtes rentré dans une forme d'empathie, enfin je ne sais pas si on peut parler d'empathie avec elle, mais où il s'est passé quelque chose qui a produit une discussion. Voir l'humain toujours derrière, ce qui explique en fait les comportements. Et c'est pour ça que aussi je disais, moi je suis pas très à l'aise dans l'idée du reportage de guerre qui se fait par exemple beaucoup au front. Moi il m'est arrivé d'être effectivement sur des guerres et d'aller au front, mais d'abord je suis une vraie trouillarde, donc c'est déjà une chose, je cours pas vite. Et il y a des journalistes qui font ça très très bien, et de décrypter des stratégies militaires, etc. et tout. Mais pour avoir vécu par exemple des bouleversements profonds sociétaux comme les révoltes arabes, etc. au niveau de la population, je sais aussi que c'est très important, et pour l'auditeur aussi, de pouvoir comprendre une situation par le civil en fait. Et Tanguy Salin, qui est journaliste avec qui j'ai coécrit l'Égypte de Tahrir, et qui est mon mari, Tanguy un jour m'avait fait cette réflexion en appelant ces sujets les Mahmoud Cris. Alors le sujet Mahmoud Cris, c'est sur la place Tahrir, Mahmoud, 18 ans, crie sa douleur. Cela fait 3 jours qu'il se bat face aux forces de police égyptiennes, 3 jours que Mahmoud attend la fin de Hosni Moubarak. Sur Maïdan, Igor réchauffe ses mains autour d'un brasero. 3 jours que à Maïdan, Igor est là. Igor gèle dans le froid ukrainien, blablabla. À Bamako, Mamadou, enfin, ce sujet Mahmoud Cris, on peut le développer absolument partout, à partir du moment où justement on ne va pas essayer d'aller derrière, on ne va pas aller suivre Mahmoud chez lui, à la maison, rencontrer ses parents, rencontrer tout ça, comprendre où c'est qu'il est, où il va à l'école, s'il va à l'école, s'il est étudiant, etc. Bref, pouvoir aller près et aller parler des gens dans un quotidien, ça permet de faire attirer vraiment l'attention de votre auditeur, parce que si vous lui parlez simplement de Mahmoud sur la place Tahrir ou Igor sur Maïdan, il va entendre, il va pas percuter, mais pour lui tous les conflits sont les mêmes. À un moment, quand vous allez lui raconter que je sais pas moi Mahmoud est pharmacien et que ceci et que cela, enfin qu'il va pouvoir y avoir une forme éventuellement d'identification, et qu'on arrête de voir les gens dont on parle comme des choses très très lointaines, les conflits très très lointains, ça permet davantage d'abord une interconnexion, et puis surtout penser que ce qui se passe ailleurs, on n'en est pas à l'abri non plus. Il y a aussi une façon, je pense, de raconter le monde, qui est aussi l'idée de dire que voilà, l'imprévisibilité des choses, le bascule d'une situation, ça se fait partout. Et que concrètement, la mère de famille d'Alep qui travaillait à la banque, à l'Arabe Bank du centre d'Alep, elle n'imaginait probablement pas, 3 ans après, finir sous une tente au sud de la Turquie.
Monsieur, vous voulez poser une question? Ensuite, on va en prendre 2 dernières. Je vois 2 mains qui se lèvent. 3? Ok. Et puis, on arrêtera après. Monsieur, oui.
Bonjour, merci d'être là.
Approchez le micro si ça ne vous dérange pas. Voilà.
Non. Merci d'être là. Et je suis désolé que je ne parle pas très bien français, mais quand même, je vais essayer. Sans honte, je veux parler.
Pas de problème.
Si ce n'est pas bien. Et je veux vous poser une question. Comme que vous étiez en Égypte pendant 15 ans. Et vous avez cité qu'il y avait une genre de bras de fer entre les militaires et les comme que vous avez dit, les radicaux, les islamistes. Ouais. Aujourd'hui, ils sont dans les prisons, ils sont exilés, il n'y a que les militaires. Tout derrière, on a entendu que Sami Anan, il est en train de faire le candidat pour
le président de la République. Ouais.
Est-ce qu'on a juste aujourd'hui une bras de fer juste entre les militaires même, entre les généraux? Et c'est quoi, d'après votre opinion, quand vous analysez, on va voir qui d'ici quelques jours ou à peu près, ou si va briguer un autre mandat, ou c'est une alternative pour parce qu'on a une impasse en Égypte, c'est un peu bloqué.
Okay. Donc vous posez la question de la prochaine élection présidentielle en Égypte dans 2 mois, donc où le maréchal maintenant président Sissi se représente à un nouveau mandat, Sami Anan qui était
Les gens ne vous entendent pas, du coup. Essayez de laisser terminer parce que ce n'est pas possible sinon. Excusez-moi. Parce que les gens n'entendent pas, du coup, de ce dont vous parlez.
Mais donc, vous posez la question de la suite de la situation politique en Égypte. Alors, bon, moi, je ne suis pas voyante, hein, mais juste journaliste. Donc, je ne peux pas vous dire qui va gagner l'élection, etc. Même si Sissi va probablement remporter, verrouiller cette élection, puis la remporter, parce que concrètement, il y a tous ceux qui auraient voulu se présenter en face ne peuvent pas. Donc, comme Ahmed Shafik, par exemple, l'ancien Premier ministre qui était revenu en Égypte pour se présenter à l'élection et puis qui a disparu juste à son arrivée à l'aéroport et puis il a réapparu 2 semaines plus tard sans qu'on sache où il avait été entre temps et puis il a dit non, finalement je crois que les conditions de sécurité sont pas tout à fait réunies et donc il sera pas candidat.
Donc vous aviez madame, ensuite il y avait la main là-bas, ok, et monsieur, c'est bon, je vous ai vu. Ouais. Il y a une autre main là-bas aussi. Ah oui, ça. Voilà, c'est une épidémie. Allez-y.
Merci pour votre partage. Et je m'interrogeais sur la place de la langue, en fait. Enfin, je pense notamment à vos terrains proche-orientaux. Vous disiez parfois vous étiez seul lors des interviews ou avec un technicien. Et au niveau, est-ce que parfois vous étiez avec un interprète et enfin voilà la place que vous accordez à l'interprète quand il y en a un.
Merci.
Alors il y a peu de donc en Égypte moi j'ai appris l'arabe mais mon arabe est loin d'être excellent, suffisant pour pas mal de choses. Après on se débrouille, enfin quand on est pigiste on n'a pas du tout les moyens d'avoir un interprète hein, de toute façon, parce qu'effectivement on n'en a pas parlé, mais il y a dans le reportage à l'étranger il y a un élément souvent essentiel mais auquel j'ai pas eu droit pendant 15 ans, c'était le fixeur. Donc le fixeur, en fait, pour vous la faire courte, c'est souvent un journaliste local ou un étudiant qui va vous servir à la fois de traducteur, de guide, qui va être votre porte d'entrée en fait vers un pays, qui va vous décrypter tout un tas de choses, qui va vous dire ah mais si tu travailles sur cet angle-là, il faut vraiment que tu rencontres telle ou telle personne. Donc voilà, quand on est pigiste, du moins moi quand j'étais pigiste, j'ai pas pu avoir de fixeur parce que ça coûte cher.
C'est plutôt l'inverse même.
On me proposait moi d'être fixeuse, ce que j'ai pas fait non plus parce que j'aime pas ça. Mais il faut savoir qu'un fixeur, par exemple, en moyenne, ça coûte entre 100 et 150 euros par jour et beaucoup plus dans des pays en guerre. Donc, c'est un budget très, très lourd. Hein, voilà. Il y a des pays où je suis allée travailler où je ne parlais pas du tout la langue, par exemple la Russie. J'ai trouvé ça parfois compliqué en fait, de ne pas pouvoir du tout... En fait, à défaut de pouvoir parler, de pouvoir suivre complètement une conversation. Mais bon, ça fait partie du job. Mais c'est vrai que quand vous pouvez vous adresser directement à une personne dans sa langue, ça change tout. Donc, comme beaucoup de reporters, je parle plusieurs langues. Si je pouvais en parler encore davantage, ça serait bien. Mais...
Monsieur, puis madame, puis deux autres membres.
Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Vous avez évoqué un peu les difficultés que vous rencontrez dans ce travail de journaliste, que j'ai été moi-même d'ailleurs. Alors la question est très simple. Depuis une trentaine d'années, il y a une évolution terrible, je trouve, sur la couverture de l'ensemble de l'information et notamment des conflits. Alors pour vous, maintenant qui êtes sur le terrain très souvent, quels sont les nuages noirs que vous voyez venir et qui empêcheront à moyen ou long terme de faire vraiment ce travail de couverture?
Un des plus gros dangers que je vois monter, ce sont les fake news. C'est terrible, en fait. C'est vraiment terrible. Je pense que chacun d'entre nous le vit au quotidien, en discutant, y compris avec notre entourage, etc., de voir l'importance prise par ces fausses infos qui se disséminent si facilement. Et là-dessus, je pense que le seul moyen de lutter contre les fake news, ou du moins de contrer leur effet, c'est effectivement de continuer à faire notre travail au plus près du terrain. Et dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut continuer à aller rechercher l'information, donc aller sur place. Et je parle là aussi en tant qu'employé du service public, d'une radio de service public, c'est-à-dire que je pense qu'il est essentiel qu'on continue à aller chercher l'information au maximum, et tout ça, ça coûte de l'argent. Partir en reportage, ça coûte c'est du temps, c'est de l'argent. Et or, je pense qu'il faut absolument sanctuariser ça, et aujourd'hui, où les médias sont en crise, avec des budgets qui sont aujourd'hui de plus en plus réduits, c'est un danger. C'est un danger dans les deux sens, c'est-à-dire que d'abord, le journaliste doit aller chercher l'information, la vérifier, la rapporter, mais il est aussi extrêmement important que les gens voient que le journaliste vient chercher l'information, vient l'écouter, vient la rapporter avec exactitude. Plus les gens nous verront sur le terrain, plus ils nous verront prêts, plus ils nous verront travailler, plus ils pourront avoir confiance dans une information. Alors que là, il y a une espèce de déconnexion qui se fait. Moi, je suis extrêmement mal à l'aise aussi avec... pourtant, je suis une grande consommatrice des réseaux sociaux, de Twitter, etc. Mais très régulièrement... j'ai des super histoires qui me tombent dessus. Voilà, il y a des gens qui me contactent en me disant « Alors, est-ce que vous voulez que je vous mette en contact avec un tel ?» Ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines, où j'ai reçu un mail, mais c'était formidable. Vous qui êtes journaliste, mettez-vous à ma place. Alors, on me propose on me dit « Voilà, on voudrait vous mettre en contact avec, je ne sais plus comment il s'appelle, machin, qui vit dans la Ghouta, en Syrie. Il est parfaitement francophone. Il vit dans une ville où ils sont affamés, etc. Et tout. Il a envie de faire porter sa voix, etc. » Enfin, la super histoire. Vous êtes journaliste, vous n'avez qu'une envie. Vous êtes journaliste radio, vous avez effectivement besoin de quelqu'un qui vous parle en français, qui vous raconte ce qui se passe. C'est super. Sauf que je me dis « Mais pourquoi ? C'est qui ce type ? Pourquoi, s'il parle français et qu'il a les moyens de communiquer avec moi, comment ça se fait qu'il n'ait pas communiqué par d'autres moyens, y compris Internet, vu que ça ne lui pose aucun problème que je l'appelle sur un WhatsApp, donc c'est qu'il a les moyens de le faire en sens inverse, s'il parle français et qu'il parle anglais. Enfin, c'était très bizarre. Et donc, voilà, il y a ce truc de vérification, de ne pas pouvoir aller voir sur place, de devoir se fier comme ça à des espèces de d'informations à distance que je trouve très dangereux pour l'information dans le futur. Je crois que on le voit aujourd'hui plus généralement dans la crise des médias. L'information, ça coûte de l'argent. Je vois aujourd'hui un journal comme Le Monde qui a extrêmement investi dans sa rédaction depuis 4-5 ans, mais de façon vraiment, vraiment importante en termes de moyens humains. Je ne sais pas si vous êtes un lecteur du Monde, mais aujourd'hui, je ne veux pas être méchante pour la concurrence, mais c'est vrai que l'argent qui a été investi dedans, on voit le résultat. Au bout du compte, dans le traitement de l'information qui est devenu quand même qui offre des trucs d'une qualité qui a creusé un gouffre, je trouve, avec le reste de la presse en France, justement par cet investissement qui est consacré. Or, on est aujourd'hui dans une crise totale des médias qui fait poser beaucoup, beaucoup de nuages sur nos financements.
Merci pour cette question.
Bonsoir, j'ai une question un peu plus personnelle. Vous y répondez si vous le voulez, mais je m'intéresse sur votre départ du Caire en 2012. Pourquoi vous avez choisi de quitter le Caire à ce moment-là où, en tant que correspondante, j'imagine, à mon sens, que ça devenait encore plus intéressant que les 15 ans que vous y avez passé auparavant.
Alors ça, c'était la question qu'il ne fallait pas poser. Non, ouais, c'est effectivement une question très personnelle. Ben, c'est pour des raisons personnelles d'une petite fille à mettre à l'abri d'une situation qui devenait de plus en plus difficile à gérer pour un enfant avec des parents journalistes. C'est aussi à la suite d'une arrestation de trop qui s'est mal passée et qui m'a fait enfin comprendre que effectivement il y avait des priorités à avoir en termes de sécurité. Voilà, on s'est me suis retrouvée arrêtée dans des circonstances assez désagréables, pas dangereuses mais désagréables. Et quand on a un enfant dont on ne sait pas, voilà, c'est des raisons effectivement très personnelles et ça a été un gros déchirement.
Mais finalement, c'est d'un point de vue professionnel, ça s'est avéré être un calcul, un choix intéressant, parce que ça aurait été vraiment compliqué d'être resté là-bas aujourd'hui.
Oui, et puis surtout, puis en plus, il est bon de changer. Moi, je travaillais que sur le Proche-Orient et l'énorme chance. Et puis, je suis vraiment ravie de ça, c'est que en arrivant dans une rédaction, bon, déjà de travailler avec d'autres personnes. Enfin, moi, ça m'a quand même permis de bénéficier de toute leur expertise, enfin vraiment de progresser en tant que journaliste, parce que voilà, moi je suis arrivée, j'avais jamais été dans un studio radio sauf à l'école de journalisme, de progresser en tant que journaliste déjà d'une part sur juste la façon dont on travaille, mais aussi de pouvoir m'ouvrir à d'autres pays où j'aurais jamais été ou d'autres régions où j'aurais jamais été. Donc aujourd'hui j'en suis ravie, je suis très mon étiquette Proche-Orient et mon expertise sur le Proche-Orient, elle m'est importante et je veux surtout pas la lâcher. Mais qu'est-ce que je suis contente qu'on m'envoie ailleurs. Enfin, et puis l'an dernier, Inter m'a demandé de suivre la campagne américaine. Donc j'ai passé, je crois que je suis allée 9 ou 10 fois aux États-Unis l'an dernier, où j'avais pas été depuis les années 80. Donc c'est vous dire. On m'aurait envoyé en Chine orientale, c'était pareil. Mais qu'est-ce que je suis contente? Parce que j'avais jamais travaillé d'ailleurs dans un pays facile. Aux États-Unis, vous sortez votre micro dans la rue, vous vous faites pas arrêter. Les gens, on dirait qu'ils sont programmés génétiquement pour parler à la radio. C'est génial, c'est juste un bonheur. Franchement, c'est dingue. Et pour moi, en même temps, c'était complètement flippant d'aller travailler aux États-Unis parce que je me disais bon, ça va sur la Syrie ou le Yémen. Finalement, j'étais un peu dans ma zone de confort. Je me disais que l'auditeur de base, bon, il en savait à peu près autant que moi ou un peu moins. Sur les États-Unis, c'était totalement l'inverse. Je savais que j'étais dans une zone extrêmement périlleuse pour moi parce que moi, j'y connaissais rien. Or, l'auditeur de base, lui, il y avait des chances qu'il soit allé au moins en vacances, ce qui n'était pas mon cas. Donc, j'ai bossé comme une tarée. Je me mettais vraiment la rate au courbouillon. Ça faisait rigoler tout le monde autour de moi qui me disait, bon, tu vas en reportage, je sais pas, moi, en Pennsylvanie, c'est quand même pas... C'est pas non plus le Soudan. Eh ben, c'était pire. Mais j'étais super contente d'avoir cette possibilité-là.
Merci pour cette question. Il en reste deux qu'on va... Deux, c'est ça, hein ? Je me trompe pas ? Ouais. Deux qu'on va prendre rapidement et on va conclure. Merci.
Oui, bonsoir. Merci de nous faire partager vos expériences. Vous venez de parler un peu des États-Unis, justement, pour sortir peut-être de la zone de confort, je ne sais pas, du Yémen ou des pays orientaux. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui justement de la place des journalistes dans ces pays dits faciles, où on peut s'apercevoir, aux États-Unis, Trump donne ses fake awards. Alors, il y a peut-être d'autres pays. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la place des journalistes justement internationaux, qui peuvent, comme vous, avoir une expérience peut-être qu'on peut trouver, nous, plus difficile? Mais peut-être finalement intellectuellement et des conditions de travail plus simples qu'aux États-Unis ou d'autres pays du genre.
C'est devenu terrible aux États-Unis. Je crois que c'est vraiment devenu terrible et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de voir ce qui s'y passe. C'est que avec ces fake news et avec le rejet d'ailleurs du journalisme de médias traditionnels, etc. Le travail du journaliste, mais il se complique aussi en France, hein, il se complique dans tout un tas d'endroits, est tellement soumis à caution. Il y a plein d'endroits où aujourd'hui un journaliste, y compris en France, on l'a vu dans des meetings politiques, ne peut pas mettre un orteil parce qu'il se fait casser la gueule par un service d'ordre, il se fait expulser, etc. Ou même d'autres endroits où les gens sont persuadé que vous venez animer des pires intentions ou Je suis partie. Ah oui, je suis partie en reportage récemment en Palestine et à la douane, en fait, au portique de sécurité là à Paris, en partant, le douanier voit notre matériel de reportage, le technicien et moi. Il nous dit ah, vous allez où? Vous allez faire quoi? On vous paye combien? Et je dis. Non, on nous paye pas. Oh, mais ça va, on sait bien qu'on vous paye pour des reportages, pour que vous disiez ce qu'on vous dit de dire. Et voilà, ça, ce genre de choses, c'est de plus en plus. Ouais, très, très régulièrement, on vous le dit, très régulièrement, vous êtes obligé de dire bah non, je suis désolée, je ne travaille pas pour une officine cachée, non, je n'ai pas d'intention secrète. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Et je crois que pour les journalistes aujourd'hui aux États-Unis, c'est un enfer. C'est un enfer. Et c'est là où c'est complètement... moi, j'avais été très en colère récemment quand il y avait eu ces fuites de l'Élysée à propos de l'audiovisuel public. Donc, quand Emmanuel Macron avait dit, mais il a dit que c'était pas vrai, qu'il n'avait pas dit ça, que l'audiovisuel public était une honte pour la République, était la honte de la République. Bon, on sait qu'il est revenu sur ses propos, dont tout ça. Mais malgré tout, on sent que il a dit quand même souvent ses inquiétudes face à des dérives de la presse, tout ça. Et finalement, cette espèce de... Je ne suis pas corporatiste à outrance. Je veux dire, il faut arrêter. Je ne suis pas du tout contre la sacralisation des journalistes. On a très largement une part d'autocritique à faire. Il faut sortir de l'entre-soi. Enfin, je suis vraiment pas dans un truc de sacralisation du journaliste. Mais à partir du moment où même au plus haut de l'État, etc., et tout, on en vient à considérer le journaliste comme un élément... à caution, enfin, ça devient inquiétant parce que comment on fait pour faire notre travail, comment on fait pour amener une information quand finalement de partout il y a cette espèce de petite musique qui dit que le journaliste n'est pas fiable, qu'il est téléguidé, qu'il est télécommandé, on ne peut plus se fier à rien, les infos ne sont pas bonnes et finalement la vérité est ailleurs.
Merci pour cette réponse. Je crois que c'est la dernière question. Je me souviens qu'une dame avait... Donc, monsieur, c'est tout ? C'est ça ? C'est la dernière ? Il y avait une autre question. Ouais. Attendez, juste... D'abord, on va attendre que le micro arrive.
Oui, bonsoir.
Ouais. Je ne sais pas qui a le micro, je ne sais pas qui parle.
Ouais. Voilà, conférence est très intéressante du point de vue descriptif. On dirait que c'est destiné à des néophytes qui veulent se lancer dans le journalisme. C'est très bien, je ne mets pas en cause votre professionnalisme ni vos compétences. Merci. Mais ce que vous avez tendance à montrer, l'avant-scène, on ne voit jamais l'arrière-boutique, tous les enjeux cachés qui sont auxquels sont soumis les journalistes et souvent d'une manière totalement inconsciente. J'ai en tête des exemples malheureux de journalistes qui ont payé de leur vie au Liban, par exemple. Et ce qui a, heureusement ou malheureusement, je ne peux pas juger du fond de l'histoire, servi à débloquer un contentieux financier, bassement financier entre la France et l'Iran en matière de centrales nucléaires.
Vous parlez de Michel Sora qui n'était pas journaliste, c'est ça, monsieur ?
Pardon ?
Vous parlez de Michel Sora qui n'était pas journaliste,
entre
qui
autres,
était, qui était chercheur en sciences sociales ?
Entre autres, oui, oui, oui. Ok. Il y a aussi un autre exemple qui est arrivé à l'une de vos consoeurs, là, bon, on va la nommer, puisqu'on peut les nommer, Florence Aubenas, qui a payé pour les autres, pour deux autres journalistes, ou comment dire, qualifiables. Et là aussi, il y avait un grave problème qui nous est occulté. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil, on voit la partie émergée de l'iceberg, on ne voit pas la partie émergée.
Merci.
Je suis pas sûre d'avoir bien compris tout l'ensemble de votre question, mais vous faites référence, en fait, je pense à des situations dans lesquelles
des journalistes ont été otages.
Je pense que ce qui y a derrière votre question, c'est peut-être quelque chose qui, moi, effectivement, me tient particulièrement à cœur. C'est le mélange des genres que je ne supporte pas. Je me souviens avoir été très en colère il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en Somalie. Ces deux journalistes français qui se trouvaient être des agents de la DGSE, mais qui s'étaient inscrits dans un hôtel de Mogadiscio en tant que journalistes, qui ont été enlevés et qui ont perdu la vie d'ailleurs dans l'opération de. Celui qui était resté dans l'opération de sauvetage qui a eu lieu des années plus tard. Le fait que des agences de renseignement puissent utiliser la couverture de journalistes, enfin, puissent se cacher, c'est quelque chose de terriblement dangereux pour nous. Je pense que les journalistes, il n'y a pas de mélange des genres à avoir, parce que ça nous met en danger. Certaines agences de renseignement l'ont fait avec des agences humanitaires hein, aussi. Mais moi, je pense que c'est deux métiers et qui n'ont rien à voir et que ça ne se mélange pas. Je comprends très bien qu'un agent de renseignement fasse son métier, mais voilà. Vous parlez de Florence Obna. Je pense que c'est à Florence qu'il faut poser la question et pas à moi. Et quant au sort tragique de Michel Seurat et d'otages au Liban, et vous parlez sur fond de centrales nucléaires et de rediff et compagnie, c'est encore une autre question à laquelle on n'a pas encore vraiment toutes les réponses non plus, je crois.
Mais j'espère qu'on n'est pas. Je crois qu'il y a la réponse à votre question dans sa formulation, c'est-à-dire que si on est inconscient des choses, on a beaucoup de mal à en parler. Voilà.
J'espère que je suis pas un paravent dans le sens où on m'a j'ai pas le souvenir qu'on m'ait demandé d'aller quelque part faire quelque chose.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements sur. Il y a beaucoup de questions à se poser, mais dès qu'on les formule de manière un peu comme vous le faites, c'est-à-dire de manière un peu simple. Ça n'est plus très intéressant, mais que dans le journalisme, il y ait beaucoup d'impensés sur la manière dont on va parler de certaines choses, sur les choses dont on ne va pas parler, là, il y a des débats passionnants à avoir. Quand tout de suite, vous imaginez des forces maléfiques qui manipulent les gens comme des marionnettes, tout de suite, en fait, il n'y a pas de discussion possible et ça n'est pas intéressant.
Non,
et ça
mais
n'est plus
après, il y a une première chose qu'on apprend à l'école de journalisme aussi, c'est de questionner sa source, en fait. Hein. Le premier travail du journaliste, c'est de se dire pourquoi on me parle, qui me parle, pourquoi il me parle et pourquoi et quel est l'intérêt de ma source à me parler. Je pense que c'est une question que tous les journalistes ont en permanence à l'esprit, d'où est-ce qu'on me parle, et ce travail de conscience et de vigilance sur quel intérêt a cette personne à me parler et qu'est-ce qu'elle me raconte et qui est-elle pour me dire telle chose, c'est le b.a.-ba du travail du journaliste. On n'est pas à l'abri d'une manipulation, hein. Je voudrais vous dire le contraire, mais je pense qu'il ne faut pas être naïf, mais je pense que cette idée de la manipulation, on l'a quand même sans arrêt à l'esprit. Et c'est pour ça que je ne crois pas ce que je disais tout à l'heure, je ne crois pas à la belle histoire. Très souvent, elle vous tombe. Elle arrive, cette belle histoire. Et elle est tentante à raconter parce qu'on se dit waouh, c'est génial, j'ai trouvé la personne qui. Enfin, ça, c'est bien en termes de narration, c'est super. Mais vous vous rendez compte que d'abord, la belle histoire. Elle est rarement représentative de quelque chose et moi c'est pas forcément ça qui m'intéresse. J'aime mieux être pas en eau trouble mais en eau grise, être un peu dans cet entre-deux. Et puis pour vous parler de la belle histoire, on s'en rend compte aussi souvent en reportage. C'est quelque chose qui m'est arrivé très fréquemment. Je me souviens d'un soir où en Égypte, justement au moment où la révolution a commencé à très très mal tourner, je me retrouve vers la place Tahrir. Il y avait des
affrontements très, très violents et je me retrouve planquée derrière une poubelle, comme ça, on m'a planquée en pleine nuit en attendant que les tirs se calment. Et à côté de moi, il y a un jeune qui vient se planquer aussi. Et donc, il me voit avec mon micro, il me dit « t'es journaliste ?» Je dis « ouais ». Puis il se tourne vers moi, il a les yeux tout plein de larmes, moi aussi, parce qu'on se fait... on se fait gazer, c'est juste... Et puis c'était pas des gaz tout simples en Égypte, puisqu'ils ont utilisé des neurotoxiques en plus. Donc on était dans un sale état, et puis il me dit, tu vois, moi je suis là, et puis il a des sanglots dans la voix, je suis là parce que mon frère a été tué, mon frère fait partie des martyrs de la Révolution, et je suis là pour le venger. Et je me dis, oh, c'est génial. Enfin, je ne me dis pas c'est génial, mais je dis ça tombe bien, quoi. Et donc, je sors mon micro et je suis là derrière ma poubelle. Et puis, on fait une interview et puis il me raconte toute son histoire, etc. Bon, c'est super. Enfin, j'ai une bonne histoire. Ça se calme. Je ressors et 10 minutes plus tard, ça répète dans tous les sens. Et donc, je me recache derrière une nouvelle poubelle. Et là, hop, à nouveau un petit jeune. Et puis, il me parle, il me dit « Ah, t'es journaliste ? Mon frère a été tué pendant la Révolution. » Et tout. Je me dis « Mais c'est pas possible, en fait. » Et ouais, il y avait un truc comme ça. Bon, et ça m'est arrivé il y a peu de temps encore aux États-Unis. Je me retrouve, vous vous souvenez qu'il y a eu ce massacre dans une boîte homosexuelle à Orlando, en Floride, donc perpétré par un islamiste terroriste. Et donc, je me retrouve à Orlando à ce moment-là. Donc, j'ai couvert le truc. Mais j'y retourne 2 mois plus tard pour tourner un magazine. Et là, je retourne devant le Pulse, cette boîte de nuit. Et il y a comme des vigiles. Enfin, il y a des gens qui viennent tous les soirs, qui mettent des bougies, etc. Et puis là, je vois un type qui arrive... vraiment pas bien, puis il voit mon micro et puis il me dit moi je lui ai parlé au tueur, je lui ai parlé 5 minutes avant son massacre, j'étais au bar et puis on a échangé quelques mots et puis voilà. Bon. Et là pareil, on se dit la belle histoire, sauf que cette belle histoire vous l'avez à peu près à tous les endroits où vous allez en reportage, vous avez toujours quelqu'un qui va arriver pour vous servir exactement l'histoire que vous cherchez et que pourrait chercher un journaliste. Et ça, il faut faire super attention à se méfier du trop beau sujet, du truc absolument qu'on vous sert sur un plateau et vous vous dites bon ben finalement c'est bon, j'ai mon sujet, puis j'ai de quoi bien le raconter. Donc moi voilà, j'ai une tendance à beaucoup me méfier de ça.
Merci Claude, on va conclure. Merci.
Merci à vous.
Merci à la BPI pour son accueil. Merci à l'équipe technique pour sa patience et son efficacité. Peut-être des infos sur les rencontres à suivre.
Tout à fait. Donc, merci à Claude Guibéal et Ziane Mahalouf. Merci effectivement à la régie pour la captation de cette soirée que vous retrouverez sur notre web magazine. Pour vous dire aussi que vous retrouverez les ouvrages de Claude Guibéal et des collections radio et télévision de l'INA en salle de presse gratuitement à la BPI. Et puis donc le prochain rendez-vous, le 12 avril, en salle de presse. Très bonne soirée, merci d'être venu. Au revoir.